BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au sommaire, une année 2023 record. À quoi s'attendre pour 2024 pour la première chaîne d'infos en France? Marc-Olivier Faugiel, directeur général de BFM TV, est l'invité d'Hebdo.com aujourd'hui. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdo.com. Et puis pour terminer, notre focus du jour, Netflix qui retrouve sa puissance. Quelles sont les raisons de ces bons résultats? Avec la hausse des prix des plateformes, quel est le meilleur modèle de tous ces géants du streaming? On décrypte cela dans un instant, mais d'abord, j'accueille mon invité et c'est Marc-Olivier Faugiel. Bonjour Marc-Olivier Faugiel.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être avec nous dans Hebdo.com aujourd'hui.
Je suis ravi, très heureux, voisin.
Bah ouais, voisin, vous êtes donc directeur général de BFM TV, on fait partie du même groupe, BFM TV, BFM Business. C'est votre truc l'économie, pas trop?
J'ai fait un doc d'économie, mais je me suis arrêté là, donc c'est...
Un petit peu quand même.
Légèrement.
Donc pour BFM TV, 2023 a été record puisque c'est la deuxième meilleure année historique hors présidentielle. Excellent mois de janvier également, 3,1% de part d'audience, plus 19% en un mois seulement. Et BFM n'est donc pas à vendre, hein, c'est assez clair, vous êtes clair là-dessus depuis
Patrick
des mois.
Patrick Drahi est très clair là-dessus, notre actionnaire commun redit depuis des mois qu'il a reçu des offres, mais que BFM et BFM Business ne sont pas à vendre du tout. Mais c'est assez marrant, parce qu'il a beau le dire, la rumeur est toujours là et elle persiste.
Là, les rumeurs persistent, pourquoi?
Et les gens ne croient pas. Et ça ressemble beaucoup à la problématique de BFM. Il y a un récit que les gens aiment bien entretenir, et puis il y a une réalité qui est souvent très différente entre ce qu'on peut lire et ce qu'on peut vivre. Et c'est symbolique avec cette histoire de vente. Non, BFM TV comme BFM Business ne sont pas à vendre. Ça n'empêche pas les rumeurs, les appels de journalistes qui sont supposés être bien informés. Mais je le sais, Saadé a taupé hier, etc. La réalité, c'est pas à vendre.
Parce qu'on peut le dire, c'est arrivé jusqu'à l'interne. Donc les journalistes ont pu...
Forcément, parce que quand il y a une rumeur, c'est le propre de la rumeur. Elle se propage, on ne sait plus très bien que croire. Patrick Drahi est venu plusieurs fois ici parler à ses managers et a dit, affirmé que BFM n'était pas à vendre. Mais la meilleure exemple, c'est pas ce qui, la meilleure preuve, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait en fait. Et aujourd'hui, moi en tant que patron de BFM TV, je peux dire que j'ai des moyens à long terme, avec un investissement à long terme, pour développer BFM TV. Un actionnaire qui voudrait se séparer de son actif n'investirait pas à long terme, il regarderait à court, voire moyen terme. La réalité de notre travail de manager à BFM TV avec un actionnaire qui est Altis, c'est qu'on se projette à long terme.
Là, en revanche, c'est la période des renégociations, des réattributions des fréquences. Est-ce que vous avez des offres, on peut avoir des offres concurrentes pour le Canal 15?
On peut, oui, évidemment, on peut y avoir des offres concurrentes, mais quand on regarde aujourd'hui les 18 ans de BFM TV, qui a toujours respecté ses engagements, qui est un exemple de pluralisme, qui est aujourd'hui la marque d'info préférée des Français, il n'y a pas de raison, a priori, d'être inquiet. Mais il faut préparer cette réattribution de façon consciencieuse, ce que fait Arthur Dreyfus avec ses équipes et donc avec Hervé Béraud et moi-même, pour pouvoir reproposer un projet solide, sérieux, mais surtout comptable des 18 ans qui viennent de passer, 18 ans solides au service de l'info et des téléspectateurs.
Ça, c'est pour le Canal 15. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour, je ne sais pas, qu'on récupère TFX ou Sister?
Je crois pas. Non, c'est pas prévu comme ça.
Ces derniers mois, on le sait, on s'est fait piquer quelques journalistes par TF1, un petit peu d'audience par CNews, surtout au mois de décembre.
On s'est pas fait piquer de l'audience par CNews. CNews a largement progressé au mois de décembre, mais n'a pas entamé le leadership de BFM TV. Il y a un concurrent qui progresse, il faut pas le nier, avec des chiffres très différents.
Ça vous challenge.
C'est sur la durée, ça nous challenge, mais c'est pas au détriment de BFM TV. C'est un concurrent qui, à un moment donné, par moment, talonne, voire certains jours dépasse, pas du tout sur le nombre de téléspectateurs, puisque BFM TV a en moyenne 12 millions de téléspectateurs, là où CNews en a 8 millions.
Même 13 millions au mois de janvier.
Oui, au mois de janvier. C'est la durée d'écoute. Les téléspectateurs de CNews plus âgés, dans un autre format, qui n'est pas le format du tout d'une chaîne d'info généraliste, regardent CNews plus longtemps, ce qui fait une part de marché qui, par moment, vient concurrencer BFM. Mais BFM n'est pas fragilisé par la montée de CNews. Il y a juste un concurrent qui monte, comme LCI est monté il y a quelques années et est retombé depuis. C'est la vie des médias.
Et donc, vous pensez que ça va suivre ce même schéma qu'LCI, parce que c'est quand même la première fois que l'écart se resserre autant et que les audiences montent.
Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas quel est leur potentiel. Je sais en tout cas ce qu'est le potentiel de BFM TV. Regardez, donc, vous l'avez dit au mois de janvier, avec un score particulièrement performant. La crise agricole, la semaine qu'on vient de vivre avec des scores de dingue et 15 millions de téléspectateurs devant BFM. Ce que je sais, c'est que le format de BFM TV est très puissant. Mon boulot, c'est de le perfectionner et de continuer à l'améliorer. Et donc, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce que va faire CNews. Je sais simplement que BFM TV en a encore sous le pied et est un leader très largement incontesté et serein.
Bien sûr, mais parfois on peut penser à est-ce qu'on ne risque pas de vivre la même chose que ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une dizaine, quinzaine d'années avec CNN et Fox News qui d'un coup partaient avec très peu de moyens et d'un coup...
Encore une fois, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que d'abord, quand on regarde la raison pour laquelle CNews a progressé ces derniers mois, c'est sur sa durée d'écoute, pas sur son nombre de téléspectateurs et sur un public qui n'est pas le public de BFM, qui est un public beaucoup plus âgé. Pas du tout qu'on méprise, hein, mais c'est des gens, mais quand on regarde les 25-49 ans, qui aujourd'hui, le modèle économique de BFM TV, qui permet de vendre de la pub, de déployer donc autant de moyens, ce modèle-là, il est incontesté. CNews, même quand elle progresse en 4 ans et plus, donc sur l'ensemble de la population, mais avec un public plus âgé, sur ce public-là, qui est quand même 25-49 ans, c'est beaucoup de monde, et c'est le public commercial, il n'y a pas de match. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais c'est que le modèle économique de BFM TV n'a jamais été aussi fort.
Si on revient sur les départs des différentes vedettes de BFM TV, Laurent Ruquier, Bruce Toussaint, Aurélie Casse, c'est des moments où, en tant que patron, vous avez dû gérer ces imprévus, des échecs. Quand on pense à Laurent Ruquier, qu'est-ce qui a été le plus difficile ?
Le plus difficile, c'est le départ de Bruce, parce qu'il est intervenu. C'était un
au
des piliers
de
BFM. On a fait plein de choses ensemble, on se connaît depuis 25 ans. À BFM, il faisait beaucoup de choses. Et donc, partir, c'est la vie des médias. Moi-même, j'ai bougé de rédaction en rédaction. Le fait de partir le 5 octobre, enfin annoncer ça le 5 octobre, ça a été l'imprévu le plus compliqué à gérer. Et en plus, comme il faisait suite à une série de départs, chacun pour des raisons différentes, que des propositions qu'on faisait ailleurs et qui permettaient à ces gens-là de progresser, ce qui est donc totalement normal. Il y a un autre récit qui en a été fait, mais d'un coup, ça venait alourdir la barque. Et après, il y a la réalité, et c'est pour ça que ce métier est plutôt sympa, parce que je ne vais pas vous dire que c'était une bonne nouvelle que Bruce parte le 5 octobre. Il est resté jusqu'au mois de décembre, mais le 5 octobre, il nous l'a annoncé. Puis finalement, ça nous a obligés à recomposer une grille en interne. Et puis finalement, cette grille, elle est plus performante que la précédente. Maxime Switek, le matin, marche mieux que ce que faisait Bruce en fin de parcours. Julie Hamet, le soir, qui remplace Max, cartonne. Et donc, en fait, ça crée des opportunités. Notre métier, vous le disiez, c'est gérer des imprévus. De temps en temps, c'est compliqué. Et des fois, c'est hyper chouette. Finalement, cette situation qu'on n'a pas choisie, qu'on a subie, elle permet à BFM d'être encore plus performant et puis de donner encore plus d'espace à des gens qui auraient pris plus de temps pour le prendre. Ça vaut pour le départ de Jean-Baptiste Boursier l'année dernière. Il a cette proposition, il veut rejoindre le groupe. Il voulait faire une matinale, c'était pas possible chez nous. Il part à LCI, c'est la vie. D'un coup arrive Benjamin Duhamel et cette année, Benjamin, tout jeune, même pas 30 ans, il prend un espace de dingue, il est très bon, ça marche mieux que l'année dernière. En fait, c'est chouette. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, on se réjouit.
Et Laurent Ruquier, comment vous avez vécu ça ? Il est quand même resté assez peu de temps à l'antenne.
Ouais, Laurent Ruquier, c'est... comment dire ? D'abord, je suis content de l'avoir tenté. Parce que il faut tenter des choses dans ce qu'on fait, ou alors on est figé, on bouge pas, on ne progresse pas. Il n'a pas trouvé sa place sur la chaîne. Il est arrivé très tard, fin septembre, est arrivé le drame du 7 octobre. L'actualité est devenue monothématique. Ce qu'il pouvait amener à BFM, il n'a pas pu le montrer. Il n'a pas trouvé cet espace-là. Je ne sais pas s'il l'aurait trouvé avec une autre actualité, mais toujours est-il avec celle-là, il n'a pas pu amener une spécificité qu'on a été chercher. Ce qu'il faisait n'était pas déshonorant. Au début, on s'est cherché, puis finalement, on s'est trouvé. Ce n'était pas déshonorant, mais lui-même le disait, d'autres peuvent faire mieux que moi. J'amène rien de particulier. Et c'est compliqué de travailler à BFM. C'est une grosse machine. Vous connaissez la rédaction. Il venait sans plaisir. Donc, quand il m'a expliqué, en fait, en fin de mois de juin, en mois de décembre, qu'il pouvait rester jusqu'au mois de juin, mais qu'il venait sans plaisir, c'est trop compliqué de venir bosser à BFM sans plaisir. Donc, je l'ai libéré simplement. Est-ce que c'est un échec ? Oui, parce que partir en cours d'année, c'est jamais... Est-ce que c'est grave ? Non. Il faisait une émission qui n'était pas très originale. On aurait voulu beaucoup plus originale, qui marchait mieux que ce qui marchait avant. Et ça s'arrête en cours d'année. C'est la vie des médias. Voilà, je m'en serais passé. Mais c'est pas bien grave.
Bon, en tout cas, les audiences cartonnent. Ouais. Une de vos cases phares, c'est la matinale.
Ouais.
Une autre matinale s'est créée avec une ancienne vedette, Bruce Toussaint. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a fait peur ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Et qu'est-ce que vous pensez du résultat ?
Peur, non, parce que c'est pas dans notre nature et pas dans la mienne. Ça nous a préoccupé pour regarder les choses. Ça aurait été irresponsable de ne pas regarder les choses. Une nouvelle offre d'infos qui se lance, ça déstabilise forcément l'offre d'infos qui est là, et donc celle de BFM, mais aussi des radios. Voilà, il y a une autre offre d'infos. Donc, on a regardé ça précisément, et ça nous a permis de nous renforcer. Notre matinale du mois de janvier, on a changé des tas de choses, des chroniques, de l'habillage. Donc, ça nous a obligé à repenser un peu cette matinale pour lui donner encore plus de moyens. Donc, ça nous a pas inquiété, même pas préoccupé. Ça nous a permis de nous concentrer sur ce qu'on faisait pour proposer quelque chose d'encore plus solide. Et puis après, quand je regarde ce qu'ils font, Bruce, il a toujours le même talent. C'est quelqu'un qui est bon. Après, ils sont partis sur deux piliers de l'info et du divertissement magazine. Est arrivée la crise des agriculteurs. D'un coup, donc, il n'y avait pas cet appétit pour ça. Et c'est compliqué. Là, ils se cherchent. Mais c'est la vie des médias aussi. Et ils se cherchent. J'espère qu'à TF1, on a la même politique qu'ici chez Altice, laisser le temps aux choses de s'installer. Je ne sais pas si ça marchera. J'espère que si ça marche, ça ne sera pas au détriment de chez nous. Nous, bien au contraire, on donne des moyens pour se développer. Pour l'instant, c'est un peu hybride
Est-ce que vous vous sentez concurrencé par cette nouvelle matinale TF1, Télématin, on est juste en dessous de Télématin, ou plutôt en concurrence avec CNews? Est-ce que vous êtes dans une stratégie
Le matin, on est en concurrence avec Télématin, très largement. On est très proche de Télématin. Sur les 25-49, on est souvent devant. En ce qu'on appelle TME, c'est-à-dire le nombre de téléspectateurs qui passent sur l'émission. Le matin, notre concurrent, clairement, c'est France 2, c'est pas CNews. Pour l'instant, mais ça changera peut-être, TF1 est loin derrière.
Vous avez entendu les critiques sur un peu le surtraitement de certains dossiers, notamment les derniers faits divers, traités des personnalités, que ce soit Gérard Depardieu, Alain Delon. Mmh.
J'ai entendu les derniers commentaires, mais ça fait 35 ans que je fais ce métier. Ça fait 35 ans que les faits divers, sont très regardés, et quand ils sont commentés, on se bouche le nez. C'est rien de nouveau sous le soleil.
Et quand on dit que BFM est un peu trop people, qu'est-ce que vous répondez ?
Que BFM n'a pas changé de ligne éditoriale, ça a toujours été, je me souviens de Johnny Hallyday, j'étais pas là, son enterrement derrière sa succession, ce feuilleton, il a été raconté sur BFM. BFM, c'est assez simple, une actualité, quelle qu'elle soit justement, que ce soit un fait divers ou politique, on se bouche pas le nez, on le traite, et quand cette actualité devient un événement, il est très traité sur BFM, comme Johnny l'a été, Delon l'a été par exemple, ni plus ni moins. Voilà. Et Pierre Palmade, quand vous voyez cette semaine que les députés de l'Assemblée nationale ont voté un délit qui n'est plus le délit d'homicide involontaire, mais de délit routier, suite à toutes ces affaires, l'affaire Aleno...
Vous pensez
Aleno,
que BFM, on est pour quelque chose ?
Non, mais je dis qu'on ne s'est pas trompé en traitant l'affaire Palmade. Ce n'était pas l'affaire Palmade en soi, il y avait plein de tiroirs dans l'affaire Palmade, mais il disait quelque chose de la société. C'était que prendre le volant sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue... c'était pas suffisamment pris en compte par la société. Yannick Aleno est arrivé après en perdant son garçon Antoine. Et tout ça fait que la représentation nationale s'en est saisie et a changé la loi. BFM TV, en traitant l'affaire Palmade et en expliquant tout ça, a raconté quelque chose qui était très ancré dans la société.
Qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent à BFM TV aujourd'hui ?
La publicité. Pas le plus, quasiment.
La ressource, c'est le business model de BFM.
C'est une chaîne privée qui est financée par de la publicité.
Est-ce que c'est rentable, BFM TV ?
Oui, c'est la seule chaîne d'info qui est rentable. Aujourd'hui, vous avez 4 chaînes d'info. Une chaîne du service public qui ne cherche pas de rentabilité, elle est payée par vous et moi, par la redevance. Et puis, les deux autres chaînes qui sont TF1, qui sont LCI qui appartient à TF1 et CNews qui appartient à Canal, perdent de l'argent pour TF1 depuis toujours. BFM TV... gagne de l'argent aujourd'hui comme hier.
Et alors, comment abordez-vous 2024, là on est début de l'année, les Jeux Olympiques, les Européennes, est-ce que vous allez innover...
La présidentielle américaine.
La présidentielle américaine, bien sûr, vous allez innover avec des nouveaux formats, des nouvelles incarnations ?
Des nouvelles incarnations, on est en train de préparer la grille de septembre, donc c'est trop tôt pour en parler, mais on réfléchit sans tabou à 360, là où on est fort, là où on a des faiblesses, avec qui on a envie de travailler à l'extérieur. Donc on est en pleine phase de regarder tout ça. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des nouvelles incarnations. En tout cas, on se dit pas qu'on a besoin de personne. On regarde. Hein. Et puis après, oui, sur les différents grands événements d'actualité, on réfléchit à des nouvelles façons, des nouveaux formats, comme on a fait sur la présidentielle, où on a pu inventer ce face à BFM et cette France dans les yeux, on réfléchit à tout ça et on réfléchit aussi surtout ici avec le digital, puisque aujourd'hui la grande force de BFM et sa spécificité, c'est ce qu'on fait à l'antenne, mais c'est aussi ce qu'on fait sur le digital, ce que les autres chaînes info ne proposent pas. Et sur le digital, on peut inventer aussi beaucoup de choses de façon très légère et sans les codes de temps en temps un peu plus lourds de la télé.
Et vous avez d'ailleurs lancé BFM 2 cette année.
Absolument, en juin, en gros, c'est
l'alternative
à BFM TV. Quand par exemple on est en pleine crise agricole et que toute l'actualité tourne autour de la crise agricole et BFM TV est très concentré sur tout ça, il se passe d'autres choses à côté. Typiquement ce matin, il y a ce fait divers justement, puisque de cette jeune femme qui a disparu depuis quelques semaines, quelques mois, Lina, la mère et l'avocat sont reçus par les enquêteurs, derrière donne une conférence de presse qui n'a plus sa place sur BFM TV dans la journée où Gabriel Attal fait des annonces, elle aura sa place en direct sur BFM 2.
Et il n'y a pas un risque que BFM 2 vienne piquer des auditeurs et des téléspectateurs de BFM TV ?
Tout ça, c'est de l'audience qu'on appelle incrémentale. Au contraire, ça vient renforcer la marque et les gens qui vont vouloir aller voir une actualité sur BFM 2 reviendront après sur BFM TV et inversement. Nous, on pense au contraire que ça va renforcer la marque BFM TV.
Alors, la petite question BFM Business, ouais. Est-ce que vous avez pensé à intégrer l'intelligence artificielle ? Parce qu'on ne parle que de ça, c'est quand même le mot-clé de 2024.
Alors, dans nos process de fabrication de l'info, oui, notamment par exemple sur la documentation. On peut aujourd'hui beaucoup plus vite chercher des images que de façon fastidieuse comme on pouvait le faire avant. Donc, en back-office, beaucoup. À l'antenne, oui, on y réfléchit sur deux choses, sur la météo, parce qu'il y a plein de données météo qui peuvent être recoupées par l'intelligence artificielle et proposées, donc on travaille là-dessus. Et on réfléchit, on travaille, on a même pas mal avancé aussi sur, je ne sais pas si ça verra le jour, parce que ça sera peut-être nul, mais on y travaille, sur un billet humoristique qui serait fabriqué par l'intelligence artificielle.
C'est quoi la suite pour Marc-Olivier Fogiel ? Vous avez fait de la radio, de l'antenne, là vous êtes patron de chaîne, c'est quoi votre prochaine vie ?
J'en sais rien, parce qu'à chaque fois les choses se sont présentées et de façon... Comment je suis arrivé à BFM TV, je ne rêvais pas d'y travailler. Je connaissais Hervé Béroux qui est mon ami depuis 30 ans, lui-même était donc mon prédécesseur, est monté d'un étage et m'a proposé, et c'était l'envie de travailler avec lui qui m'a fait venir. Donc j'en sais rien, la vie elle est faite d'opportunités. Donc, et jusqu'à là, j'ai su les saisir et continue. Si j'ai une cohérence dans mon petit parcours, c'est de continuer tout le temps à apprendre et de pas finalement me dire bon ben voilà je sais le faire et d'être très confortable dans le rôle d'animateur télé ou de journaliste.
Donc pas de retour à l'antenne ?
En tout cas à date c'est pas prévu.
Et continuer à diriger des chaînes, je pense par exemple à la succession de Nicolas Taverneau par exemple, c'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser ?
Très sincèrement, je ne me suis jamais projeté dans un autre boulot et à chaque fois, les choses sont arrivées, on m'a proposé un truc et j'ai accepté, ou pas d'ailleurs, et j'ai jamais regretté.
Et puis pour finir, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose ?
Non, vous m'avez posé toutes les questions.
On n'a rien oublié ?
J'espère, pour vous.
Merci beaucoup Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
Netflix surfe sur le succès de ses offres avec publicité. Le géant de la vidéo à la demande a publié cette semaine des résultats annuels très solides. 13 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre et désormais 23 millions d'utilisateurs mensuels à ses offres avec pub. Netflix vise encore 13% de croissance ce trimestre. La pub qui pousse Netflix à explorer davantage la programmation en direct avec cet investissement record dans les droits sportifs, 5 milliards de dollars pour diffuser pendant 10 ans une célèbre émission américaine de catch. À propos de vidéos à la demande par abonnement, en France, le marché a dépassé en 2023 la barre des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon les données publiées cette semaine par le CNC. Le marché qui a réaccéléré en fin d'année. Netflix frôle maintenant la barre des 12 millions d'abonnés contre 8 millions pour Amazon Prime et environ 5 millions pour Disney+. La grosse annonce de la semaine du côté de Publicis, investissement de 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle évidemment. Le groupe veut mettre l'IA au cœur de son business. L'objectif principal est d'optimiser l'exploitation des données dont dispose Publicis. Havas, de son côté, se retrouve attaqué par des défenseurs du climat. Le collectif Clean Creative critique le contrat noué avec le pétrolier Shell l'an dernier pour son budget média. Les activistes font pression pour que l'agence ne soit plus labellisée Bicorp. Et le risque de perdre ce sésame est réel puisque selon Adweek, une enquête a été ouverte à la suite de ces pressions par le Bilab qui octroie ce fameux label ESG. On termine avec ce que les professionnels du secteur qualifient de blitz marketing, l'offensive publicitaire du chinois Temu, spécialiste du e-commerce low cost. Ses dépenses publicitaires ont décuplé en 2023 avec deux tiers des investissements sur les réseaux sociaux. Temu aurait dépensé plus $1,2 milliard en pub chez Meta l'an dernier. Une stratégie très agressive qui n'omet pas la télévision. Temu sera un des annonceurs du Super Bowl en février pour la deuxième année consécutive.
Hebdo.com sur BFM Business.
Dans notre focus aujourd'hui, on va parler des plateformes de streaming et notamment de Netflix qui retrouve sa puissance depuis quelques mois. 13 millions d'abonnés supplémentaires au dernier trimestre, un an et demi après de l'arrivée d'abonnements moins chers avec publicité. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Maxime Guény, bonjour.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être avec nous. Tu es journaliste pour Média Plus, spécialisé médias, contenu et plateformes. Et à tes côtés, Raphaël Grably. Bonjour.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être là, tu es rédacteur en chef adjoint de Tech & Co. Alors d'abord, on a posé la question à nos téléspectateurs sur LinkedIn. Avec la hausse des prix de toutes les plateformes, êtes-vous obligé de faire des choix ? Réponse assez évidente, oui à 83%. Donc là, on voit bien que le pouvoir d'achat reste le cœur du sujet comme toujours. Donc faire des choix. Mais est-ce que c'est cet abonnement moins cher avec publicité qui a sauvé Netflix, là, on l'a vu, et qui a réussi à séduire des nouveaux utilisateurs.
Maxime. Sauver, c'est un mot un peu fort, mais ce qui est certain, c'est qu'à travers cette nouvelle offre avec publicité, il y a eu un effet booster accumulé à un autre phénomène, l'arrêt du partage de code Netflix. Donc là, vous avez une offre moins chère, à 5,99€, vous imaginez, 5,99€, c'est même pas le prix d'un ticket de cinéma. Donc c'est hyper attractif, et à ajouter à cela, aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, c'est 5 millions d'utilisateurs actifs dans le monde par le biais de cette offre très 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 attractive.
Ça a joué l'arrêt du partage des codes à ce moment-là ?
Oui, l'arrêt du partage des codes, ça a joué parce qu'il y a l'abonnement à 5,99€, mais c'est aussi le prix d'un abonnement supplémentaire sur son, enfin d'un abonné supplémentaire sur son abonnement. Et en fait, tout ça, c'est des revenus en plus pour Netflix. Et si on devait résumer la stratégie, c'est bon, l'ultra croissance est terminée. Maintenant, à la fois, faut aller chercher. Je dis souvent ça comme ça. Maintenant, les abonnés avec les dents, parce que quand on a des parts de marché comme celle de Netflix, c'est très compliqué d'avoir des nouveaux abonnés. Donc, pour gagner plus d'argent, il y a deux solutions. Soit on réduit les coûts, et c'est pas la stratégie Netflix. Soit on veut faire payer plus cher ceux qui sont abonnés. Et donc, par le partage de comptes, c'est une solution. Et avec, effectivement, l'arrivée de ces abonnements avec publicité, ça marche plutôt bien. Après, non, c'est pas ça qui va sauver Netflix. Mais ça permet quand même d'attirer, toujours dans l'idée d'aller chercher les abonnés avec les dents, et ben d'attirer des abonnés qui n'allaient pas venir vers Netflix. Et je pense notamment à l'offre chez Carrefour. Mm-hmm. Ça, c'est quand même assez impressionnant.
Le partenariat que Netflix a fait avec
Exactement,
Carrefour.
Netflix qui a fait un partenariat avec Carrefour. C'est-à-dire que maintenant, en France, dans certains Carrefour, c'est encore une offre pilote, on a des corners Netflix et on achète littéralement son abonnement Netflix à 5,99€. Alors, tous les abonnements sont disponibles, mais l'accent est mis sur le 5,99€ entre son paquet de céréales et ses fruits et légumes. Mmh. Et donc, ça montre qu'en termes de distribution, Netflix n'est plus du tout l'offre OTT, c'était over the top, l'offre à côté du reste. Maintenant, Netflix a une problématique très importante, c'est être distribué partout pour aller chercher tout le monde, sauf que cette distribution, bah, ça a un coût, ça coûte cher pour Netflix d'être distribué, et donc forcément, ça va avec des marges qui sont grignotées, et donc pour compenser ce grignotage de marge, je crois qu'il y a marge opérationnelle, c'est 25%, 24%, donc ça reste très élevé, mais ça veut dire forcément avoir des coûts plus élevés, donc soit avec de la publicité, soit avec des tarifs en hausse.
L'autre nouveauté de Netflix, c'est que bah, la plateforme investit dans le catch, hein, retour à la télé, et prévoit la diffusion de Raw. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée d'investir autant pour acheter des droits qui coûtent si cher ?
Bonne idée. Aujourd'hui, la consommation Netflix, elle est boostée par la fiction. Ensuite, c'est le documentaire. Et aujourd'hui, le sport rentre dans cette nouvelle optique. Tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, Netflix a une logique d'aller accrocher de nouveaux abonnés. Et les nouveaux abonnés, c'est pas le public mainstream, c'est le public spécifique. Donc, ils vont aller sur de la niche. Et aujourd'hui, le catch représente des abonnés qui sont extrêmement fidèles, extrêmement engagés sur la plateforme. Donc, ils vont grignoter cette part de marché supplémentaire. C'est toujours un plus pour eux. Donc, ils investissent. Et au-delà du sport, il y a aussi tout ce qui est divertissement qui se développe de plus en plus. Télé-réalité, cooking show ou encore dating pour ceux qui aiment ça.
Oui, sur les sports, je pense que c'est une stratégie qui est partagée d'ailleurs avec tout le monde. Là, pour le coup, tous les acteurs partagent, puisque Prime avec Roland-Garros, avec la Ligue 1, Apple avec la MLS aux États-Unis. Donc clairement, le sport, c'est un énorme levier. Et d'ailleurs, sans avoir les droits, ils font quand même du sport. Formula One, la F1, on va se rappeler, oui, les droits, c'est chez Canal, mais enfin, c'est Netflix qui a tout fait, hein, qui a fait le boulot. Canal, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont liés, ils ont réussi à avoir un contrat, super contrat avec, avec la F1. Mais enfin, voilà, c'est, ils arrivent quand même à être sur le sport. La série Breakpoint sur le tennis, enfin voilà, ils peuvent accrocher le sport par plein d'angles différents.
Par de la fiction.
Par de la fiction, enfin, par du documentaire qui est parfois pas très loin de la fiction. Après, sur le sport, je suis d'accord avec l'angle d'attaque, c'est-à-dire prendre des sports un peu de niche pour essayer de trouver des communautés qui sont très très fortes, c'est-à-dire pas forcément extrêmement nombreuses, mais qui vont quasiment toutes y aller, enfin tous y aller entre guillemets. Après, sur d'autres sports où on a des montants qui sont colossaux, sur le foot, ça par exemple, voilà, bah Amazon, ça, même Amazon n'a plus tellement envie de payer pour la Ligue 1.
Ah,
donc, à mon avis, ça dépend vraiment des sports, et je pense que chaque communauté pour chaque sport est vraiment très étudiée. Et finalement, peut-être que les sports les plus mainstream sont ceux qui arriveront peut-être pas sur ces plateformes finalement.
Et pour terminer, donc la pub, le sport, à votre avis, c'est quoi le next step de Netflix?
La prochaine étape, bon, effectivement, c'est une accentuation de la personnalisation des contenus, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle pour avoir vraiment du ciblage de visionnage. Et puis, la prochaine étape, ce sera, je crois, la fusion d'autres acteurs. Aujourd'hui, le top 3, c'est Netflix, Prime Video, Disney+. Et il y a Paramount+ qui arrive, mais il y a des volontés de fusion entre différents services. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va fonctionner à l'avenir, ce sont des gros groupes hyper puissants, hyper bien marketés, qui permettront au public de consommer, comme il se doit, du bon contenu.
Oui, moi je pense que forcément il va y avoir la disparition de plateformes et des contenus qui vont être aspirés. Concernant Netflix sur le contenu, alors c'est pas un pari, c'est une question que j'arrête pas de me poser et j'imagine qu'ils m'ont pas attendu qu'ils se la posent depuis des années, c'est l'info. Quand on est Netflix aujourd'hui, on est TF1 quasiment, enfin je veux dire en France, on a ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'on se lance dans l'info? Alors l'info hard news façon BFM d'ailleurs, je crois pas trop. Alors certains diront que ça rebute aussi les annonceurs, même si bon, BFM arrive à gagner de l'argent, mais je veux dire l'info telle quelle, je suis pas sûr. C'est pas forcément leur métier. Par contre, du sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font du documentaire.
Ouais.
Le passage du documentaire à du magazine un peu plus sociétal, c'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, je trouve que c'est un contenu qui pourrait parfaitement coller avec ces plateformes, sans que ce soit du hard news, un passage. Voilà, j'ai envie de dire
un peu tiède,
petit à petit, subtil vers de l'info. J'imagine qu'ils l'envisagent et c'est quelque chose qui me surprendrait pas.
Voilà. Bon, bah on verra. Merci Maxime Guény, journaliste pour Média Plus. Merci d'avoir été avec nous. Merci Raphaël Grably, rédacteur en chef adjoint chez Tech & Co. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay, podcast et sur le site de BFM Business. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Hebdo.com sur BFM Business.